Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le chapitre 33, et on est à la page 93. Alors, je préfère vous rassurer, d'abord David va nous servir, je préfère vous rassurer, même ceux qui étaient un petit peu largués la semaine dernière, et ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, non, vous inquiétez pas, on va passer à autre chose aujourd'hui. C'est la suite, mais c'est quelque chose, ça veut dire, ce matin c'est juste un petit résumé qui était concentré. Mais on va aller dans quelque chose de plus simple aujourd'hui. Ce qu'on est en train d'expliquer dans ce chapitre 33, le temps que David nous serve le Lechaïm, pour nous réchauffer un petit peu.
Il n'y a que ma part.
Tu veux une paille ?
Il n'y a que sa part, il a dit.
Ce qu'on a expliqué, Rabotaï, ce qu'on a expliqué dans le chapitre 33, on va attendre le Lechaïm, alors on y va, y'a là. Nous sommes, on a dit, dans le troisième cours sur le chapitre 33, bonsoir. Et dans ce chapitre, on a expliqué la chose suivante. On essaye d'expliquer comment on peut arriver à une vraie joie. À une vraie joie. Une joie qui ne soit pas conditionnée par quelque chose. Une joie qui ne soit pas conditionnée par le fait que je me dis que je suis joyeux, par le fait que je me mets à danser, par le fait que je bois de l'alcool. Une vraie joie. Comment on peut être réellement joyeux ? La vérité, c'est que c'est très compliqué, et je dirais même que c'est presque impossible. En général, la joie qu'on a est conditionnée. Je suis joyeux parce que ça va bien à la maison, parce que ça va bien au boulot, parce que j'ai dit les chaïm, parce que on danse, parce que celui qui est à côté de moi, il me sourit. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui me conditionne. Et c'est comme ça que l'homme est fait, c'est normal. Quelqu'un, il te fait la tête, tu fais la tête. Quelqu'un, il te sourit, tu le souris. Donc je suis conditionné finalement. Moi, au fond de moi, je souris ou je fais la tête ? Des fois, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Et donc, le but de ce chapitre est d'expliquer comment on peut arriver à une vraie joie, une vraie simra. Une simra qui est inconditionnelle, qu'on peut avoir n'importe quoi, je suis joyeux profondément. Même quand ça ne va pas, ça la complexité. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a dit que pour obtenir une vraie joie, la seule façon d'obtenir une vraie joie, c'est de réaliser d'où on vient et où on va. Et là, on est parti la semaine dernière dans un développement extraordinaire. Je ne pourrais pas résumer en quelques mots, mais M. Benita l'a fait en quelques mots. On a expliqué un point très simple. On a dit que, en fait, on doit savoir qu'on fait partie de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et que d'un côté, j'ai mon libre arbitre, mais que d'un autre côté, je suis entièrement battel, entièrement annulé à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en d'autres termes, ce qu'on veut expliquer ici, c'est que c'est pas que je ne suis pas important devant Akadosh Baruch Hu, je suis important. Mais essayez de rabaisser un peu mon orgueil, parce que finalement, on retrouve beaucoup ce thème depuis 3-4 chapitres, qui nous explique que le problème, le mot de l'humanité, c'est quoi ? C'est quoi les mots de la source de tous les mots de l'humanité, c'est quoi ? C'est l'orgueil. Comme je pense que, comme je comprends pas que, donc automatiquement, dès que les choses tournent comme je pense, qu'est-ce qui se passe ? Je suis joyeux, je suis content, donc je suis joyeux. Dès que les choses ne tournent pas comme moi je pense, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis pas content. Mais en vérité, si je me dis que qui c'est qui fait tourner ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que même qui c'est qui me fait tourner, et je suis qui, moi, M. Benita, c'est qui, moi ? C'est Dieu. Je suis Dieu même. Alors dans ce cas-là, je comprends que ce que Dieu fait ne peut pas mal aller. C'est pas possible. Parce que c'est Dieu qui est aux manettes. Et quand Dieu est aux manettes, ça peut pas mal aller. Donc c'est sûr que ça va bien. Alors, ceci dit, c'est facile à parler en théorie, c'est très facile, mais quand ça va pas, ça va pas. C'est compliqué. C'est pour ça que l'Admor HaZaken, ici, dans l'étude qu'on va faire aujourd'hui, page 93, il va parler d'approfondissement. Il dit que c'est pas le travail d'un jour, ou d'un mois, ou d'une année. Ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est le travail d'une vie. Donc ne croyez pas qu'on peut comprendre en un cours, ou en quelques minutes, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, comment arriver à la vraie joie. Là, on donne seulement la piste. Mais après, prendre cette piste, c'est une piste qui prend toute la vie. Très compliqué. Comment avoir une joie inconditionnelle, que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je reste attaché avec Akadosh Baruch Hu de la même façon. C'est très compliqué. C'est comme si je vous donnerais un exemple. Comme si, par exemple, on te dirait qu'un homme, il est attaché avec sa femme ou avec ses enfants de façon inconditionnelle. C'est très compliqué et la vérité, je ne sais même pas si ça existe. Ça doit exister. C'est sûr que ça existe. Mais pour être sûr que ça existe, il faut être vraiment très éprouvé. Ça veut dire que toute la raison pour laquelle tu es attaché à ton enfant ou t'attaches à ta femme doivent disparaître. Il n'y a plus rien qui t'attache. Et au contraire. Et quand même, tu restes attaché aussi fort que le premier jour. C'est ça, un amour inconditionnel. Est-ce que ça existe ? Certainement que ça existe. Mais c'est très compliqué. C'est un travail. C'est un grand travail. Vous comprenez ?
C'est une partie de toi, après.
Oui, mais d'accord, j'ai compris. Non, mais ça, c'est facile à dire quand tout va bien.
Logique.
Non, c'est pas logique. C'est pas logique.
Non, quand tout va bien.
Quand tout va bien, c'est facile.
C'est sûr, c'est
même bien. Des fois, il y a certains aspects qui vont mal. Mais en gros, ça va. Mais quand il n'y a plus rien qui va, tu vas dire que je suis attaché inconditionnellement. C'est compliqué. C'est très compliqué.
Les enfants, on est attachés, hein.
Vois, c'est, non, c'est la même chose. La femme et les enfants, c'est le même registre. Ça veut dire, c'est quelque. Non. Oui, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que l'amour, il reste le même? Peu importe ce qu'il a fait. Imaginez, tu préserves, d'accord? Ça arrive à personne. Le fils de quelqu'un, il devient un gangster, un tueur à gages. Son père, il va l'aimer comme si que cet enfant était un grand rabbin? Il l'aime aussi fort, la même façon?
Oui.
Moi, je réponds non.
Tu mélanges l'amour et la fierté?
Non, 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 non. L'amour. L'aimer.
C'est sûr que tu mélanges pas l'amour
non, non,
et la
je mélange pas du... Non, non, je mélange pas du tout. C'est ma question.
Mais surtout non.
À mon avis, normalement, ça devrait être le cas, mais dans les faits, c'est pratiquement impossible. C'est un travail très très dur, très très difficile. C'est pour ça que dit l'Admour Azaken, la seule façon d'arriver à une vraie joie de tout ce qui m'arrive, c'est quoi? C'est d'approfondir longuement ce qu'on a expliqué la semaine dernière, comment en vérité tout est rien devant un Kadosh Baruch Hu, et que toute l'existence c'est Dieu. Donc tout est Dieu, donc il n'y a rien qui lui échappe. Donc s'il n'y a rien qui échappe, tout ne peut être que bien, puisque tout est Dieu. C'est même pas que Dieu gère tout, c'est beaucoup plus que ça. C'est que tout est Dieu. La table c'est Dieu, la chaise c'est Dieu, Monsieur Benita c'est Dieu, moi je suis Dieu, Monsieur Baruch est Dieu, tout le monde est Dieu. Donc il n'y a rien qui peut échapper à Kadosh Baruch Hu. C'est même pas des éléments, c'est même pas une main et l'autre main, c'est un seul élément.
Alors comment expliquer dans ce cas-là que ce puisque lui c'est Dieu et nous nous sommes Dieu, comment expliquer ce cas que ce même Dieu...
Oui, c'est une seule entité.
D'accord, ok. Alors c'est encore mieux. Comment expliquer que cette entité se fasse du mal à elle-même?
Ça dépend ce que vous appelez le mal.
Ah ben, tomber, recevoir une balle dans la tête, être malade...
Qui vous a dit que c'est mal de recevoir une balle dans la tête?
Bon,
attendez, excusez-moi. Qui vous a dit que c'est mal? Qui vous a dit que c'est mal? Parce que nous, avec notre cerveau humain, on comprend que c'est mal.
Enfin, quand même, on ne peut pas dire que c'est du bien non plus.
Monsieur Benita, qui a créé la logique? C'est Dieu. D'accord? Avant que Dieu ait créé la logique. Alors, non, attendez, écoutez bien ce que je vais dire. D'accord? Allez au-delà de la logique. On réfléchit avec notre cerveau. Mais au-delà de la logique, qui a décidé que ça veut dire... La logique te dit que 1 plus 1 est égal à 2, elle te dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Comme pour les hommes, c'est pas bien.
Mais au-delà, voilà, pour les hommes. Mais au-delà de la logique, parce que c'est Dieu qui a créé la logique, donc il est au-delà de la logique, parce que c'est lui-même qui l'a créé. Donc au-delà de la logique, on sait pas pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, je sais pas. C'est ce qu'il fait certainement. J'ai pas dit que je le comprends. Ça va?
Alors, s'il a créé une logique que je ne puisse pas comprendre.
Non, j'ai pas dit ça. Non.
Alors, dans
j'ai pas dit qu'il faut pas chercher à comprendre. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. J'ai pas dit qu'il faut pas chercher. Il faut chercher à comprendre. C'est important. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que même s'il y a des choses qui m'échappent, je comprends qu'en vérité, ce qui se passe, c'est certainement bien. Même si je le comprends pas.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est un travail très difficile. Oui, parce que regardez.
C'est bien.
Je vais expliquer.
Ça, c'est, non.
Ça, c'est facile. Ça, c'est facile pour, vous savez, pour un enfant, pour un nourrisson. Un enfant, des fois, il comprend pas ce qui se passe autour de lui. Il croit que c'est mal ce qui arrive. Mais comme il connaît son père et sa mère, et qu'il a confiance en eux, et qu'il voit que son père et sa mère ont l'air rassurés, donc il se dit au fond de lui, écoute, s'ils ont l'air rassurés, certainement, c'est que tout va bien. Moi, j'ai rien compris. Pour moi, c'est très très mal ce qui se passe. Mais si eux, ils ont l'air bien, c'est que certainement tout va bien. Mais après, quand on grandit, d'accord, quand on commence à avoir un peu plus de réflexion, de compréhension, même si tu vois quelqu'un en face de toi qui est rassuré, si toi tu comprends pas, t'es pas rassuré. C'est très difficile de se rassurer en se disant, moi je comprends pas, mais comme lui il est rassuré, alors je sais que tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire?
Eh oui, mais si je fais confiance à la personne qui est en face, donc je suis obligé de me baser sur comme l'enfant.
Voilà.
L'exemple que vous avez cité tout à l'heure, celui de l'enfant. Mais dans ce cas-là, ça peut aussi être le contraire. Peut-être que les parents, ils ont eu une attitude conciliante à l'endroit de leur enfant, justement pour ne pas faire peur à cet enfant, parce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé, et pour ne pas lui faire peur, ils lui font croire que tout va bien.
Peut-être, non, mais bon, Dieu ne fait pas ça. Bon. Ok. Veiné. Alors, on va prendre dans les mots maintenant. Page 93, en bas de la page. Veiné, kshiyamik, basé arbé. Lorsqu'on va réfléchir longuement à ce qu'on a expliqué la semaine dernière, à savoir que tout est Dieu, ismach libo. Son cœur va se réjouir. Vetagel nafsho. Et son âme sera en joie. Av gilat veranen. Ça veut dire de joie en joie. C'est-à-dire que plus on comprend ça, et plus on est joyeux. Ça veut dire que, indépendamment de la réalité qui est autour de moi, des fois la réalité ne peut pas être forcément, la réalité n'est pas toujours heureuse, Mais plus tu réalises que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et plus il devient de joyeux, de plus en plus joyeux. Combien d'histoires on a connues comme ça de chassidim et de tzadikim, que dans la réalité, dans la vie physique et matérielle qu'ils avaient, ils avaient une vie très dure. Et tu le voyais, chaque fois que tu les vois, plus ils sont bessimra. Comment il fait? Et c'est pas que c'est des gens qui sont dans le déni. Ça, c'est le secret. Leur secret, il est ici. Leur secret, c'est qu'ils arrivent à comprendre que tout vient de Dieu. Et que tout est Dieu. Et tellement ils réalisent, qu'à un moment, ils ne regardent plus les choses avec les mêmes lunettes que nous, on regarde. Ils regardent les choses différemment. Quand ils regardent le problème, ils regardent plus le problème. Quand ils voient le problème, ils voient Dieu dans le problème.
Quel travail il a fait.
C'est un travail constant. Ne croyez pas que c'est acquis et que c'est comme ça et qu'on arrive. C'est un travail qui dure très 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 longtemps. C'est un travail difficile.
C'est un travail de notre niveau là.
C'est un travail, oui.
Non.
Comme c'est réservé à une élite. Quand même.
Pas du tout. C'est un travail qui est réservé à ceux que Dieu a décidé d'éprouver.
Nous, on s'achemine vers ce travail.
Comme nous, on est des rigolos, alors Dieu, il nous éprouve pas à nous.
Non, c'est Dieu.
Bah, au
Attends.
Au prochain, continue comme ça. On préfère rester des rigolos.
Ce type qui lui arrive plein de choses, plein de tsarotes, il est tout le temps cas. Alors, on va le prendre pour un fou aussi.
Non,
pas du tout. Problème.
Non.
Mais est-ce que c'est vrai?
Moi, je vais vous dire, monsieur Benita, j'ai rencontré des gens comme ça. Comme ça. J'ai rencontré plus d'une fois des gens comme ça. Des gens qui sont passés par des très très grands problèmes. Vous savez, quand une personne, il y a un problème avec un enfant qui part, un deuxième qui part, des gens, ils ont toutes les raisons au monde,
voilà,
d'accord, pour déprimer et plus que ça. Et tu les vois, ils ont une simra, mais c'est pas une simra, ils vont se mettre à danser. C'est une joie profonde, c'est difficile à exprimer. Tant qu'on l'a pas vu, c'est difficile à exprimer. Ça veut dire que c'est un travail profond pour réussir à être joyeux indépendamment de ce que je comprends. C'est très difficile, parce que normalement, je suis joyeux quand je comprends. Si je comprends pas, je peux pas être joyeux. C'est très compliqué.
Mais il exprime ce
bien sûr.
Cette joie.
Ah oui, oui.
Il exprime physiquement.
Oui. Physiquement,
pas
bien
simplement
sûr.
À l'intérieur.
Non, tu sens une personne joyeuse. Une personne déprimée. Vous savez, quand vous êtes avec une personne qui est mshenfa, vous le ressentez tout de suite, même s'il parle pas. Il sent, tu sens comme si il y a un poids qui est tombé sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Hein, je traduis en anglais, Meshenfa.
Mais en tunisien, ça marche.
Meshennef, Meshenfa. Hein, c'est
exactement. C'est féminin.
Voilà, masculin, féminin.
En anglais,
voilà.
Ça donne quoi?
En anglais, ça donne.
Depressed.
Non, c'est pas depressed, non. Depressed. Je peux vous dire en yiddish, si vous voulez.
Ah oui.
Ouais, en yiddish, c'est Uisgeblosen.
Uisgeblosen,
ça veut dire, si je traduis littéralement, ça veut dire souffler de l'intérieur. Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est très très lourd, quoi. Comment on peut traduire une femme, j'aime bien.
Non, pas la colère.
Ah, c'est pas quelqu'un qui est colère.
Renfrogné
peut-être, ouais.
Quelqu'un qui est constipé.
Alors, en tout cas.
Non,
c'est pas une déprime. Non, mais c'est pas une déprime.
De mauvaise humeur, en fait.
Voilà, de très très mauvaise humeur. D'accord? Mais une mauvaise humeur
lourde.
Lourde et durable.
Durable, oui.
D'accord, qui s'arrête pas. Alors, il dit que quand on va réfléchir à tout ça, alors, on met hot be'emunazo ki rabai. Ki i kirvat elokim mamash. Réfléchir. Arriver à la conclusion que Dieu est partout et que Dieu est tout. Ki rabai, c'est quelque chose de très très grand, quelque chose de très compliqué. Vous avez bien dit, c'est quelque chose de difficile. Cependant, kihi kirvat elokim mamash. Une personne comme ça, plus il avance et plus il se sent proche de Dieu. Pourquoi il se sent proche de Dieu? Parce qu'il voit Dieu partout. Donc plus tu t'avances et plus tu vois Dieu partout. Et il dit, écoutez bien, il va aller beaucoup plus loin que ça. Alors pour ceux qui ont été enfants il n'y a pas longtemps, se rappelleront certainement qu'il y a 12 psukim. C'est les enfants, dans les enfants au Gan Israël, etc. Ou ceux qui ont des enfants au Gan Israël. Il y a 12 psukim. D'accord? 12 psukim que les enfants répètent. Alors, il y a des versets qui viennent du Chumash, des versets qui viennent de la Bible, des versets qui viennent de la Gemara. Il y a une partie des versets qui viennent du Tanya. Et un des versets qui vient du Tanya, c'est celui-là. C'est l'avant-dernier verset, Vezekol Adam. Le 11e verset. Vous allez voir ceux qui ont les enfants qui sont venus d'Israël rentrer, vous allez dire aujourd'hui on a fait le pasuk Vezekol Adam, ils vont vous dire la suite. Sauf que vous l'aurez un peu mieux compris. Quoique, je sais pas, bon. Vezekol. Ne parlons pas trop vite.
Non, les enfants
Alors, Vézé kol adam. D'abord, on va lire et traduire, et après on va commenter. Vézé kol adam. Et ceci est kol adam, toute la raison d'exister de l'homme. Vétachlit briato. Et le but pour lequel il a été créé. Ouvriat kol haolamot. Et le but pour lequel ont été créés tous les mondes. Elyonim, les mondes en haut. Les mondes célestes. Vétartonim, les mondes d'en bas. Tout l'univers que Dieu a créé. Liot, lo, dira, zo, vétartonim. C'est quoi le but? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé tout ce monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a créé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé la race humaine? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé tout l'univers? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé les anges? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le Gan Eden? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé tout ça? C'est quoi le but? Alors, c'est pas qu'il y a un but distinct dans chaque endroit, que le Gan Eden, il y a un but pourquoi il est créé, ici, il y a un but pourquoi il est créé, la planète Mars, il y a un but pourquoi il a été créé. Non. Il y a un seul but pour tout ça. C'est quoi le but? Le but, c'est que Dieu voulait et veut avoir une demeure ici-bas. Alors, attendez, on va expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas intéressé par le Gan Eden. Il n'est pas intéressé par le Olam Haba. Il n'est pas intéressé par la planète Mars. Il n'est pas intéressé par le Soleil. Par qui il est intéressé, Kadosh Baruch Hu? Il est intéressé par cette terre. Et qu'est-ce qu'il veut dans cette terre? Il veut qu'on lui fasse une demeure ici-bas sur terre. Et ça rejoint parfaitement ce qu'on a expliqué ce matin pour ceux qui étaient ce matin au cours. On a expliqué qu'il y a un débat entre Maïmonide et Narmanide, un très grand débat qui a fait couler beaucoup de temps, qui a beaucoup de penseurs juifs, etc. À savoir, quelle est la finalité de ce monde? Est-ce que la finalité de ce monde, c'est-à-dire à la fin, bon, tu dis Machiar, etc., mais à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que la finalité de ce monde, c'est un monde dans lequel il n'y aura que des âmes? C'est-à-dire que le corps va désintégrer et finalement il n'y aura que l'âme et on va vivre qu'avec l'âme? Parce que la matière, ça nous freine quand même. Ou bien est-ce qu'on va dire que non, que lorsque Machiar va venir, on gardera le corps et qu'au contraire, ce sera un monde dans lequel la matière sera à la perfection? On a expliqué ce matin que c'est une grande marloquette entre Maïmonide et Narmanide. Maïmonide pense que le monde à venir, donc Mashiach, est un monde où il n'y aura que des âmes. Ça veut dire, lui, il dit, moi je pense que Mashiach va venir, il y aura la résurrection des morts, ils vont revenir matériellement, etc. Mais après un moment, progressivement, on va quitter le corps, il n'y aura plus de corps. Il n'y aura que des âmes. C'est la vie de Maïmonide. Mais, la majorité des penseurs juifs, donc, ont suivi l'avis de Narmanide, qui n'est pas le même, qui dit exactement le contraire, dans le Baal Shem Tov, dans le Gaon de Vilna, dans tous les grands penseurs juifs, ils ont dit pile le contraire, ils ont dit comme Narmanide, ils disent pas du tout. Ils disent le but de la création de ce monde, c'est qu'au final, on vivra dans un corps sur Terre. Sauf que, aujourd'hui, la matière est un frein. Aujourd'hui, l'âme veut décoller et le corps la retient. Mais lorsque ma chair viendra, le corps ne sera plus un frein. Le corps éclairera comme la Neshama. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé tout ce monde, c'est pour avoir une demeure ici-bas. C'est quoi une demeure ici-bas? Ça veut dire comme ça. Il y a des endroits dans lesquels Akadosh Baruch Hu est bienvenu naturellement. Par exemple, tu vas au Gan Eden. Bien sûr, tu leur demandes, c'est qui le patron ici? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Bien sûr, c'est Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas d'avoir des gens qui le voient partout et qui disent tout de suite, oui, on te voit, tu es là. Ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu, c'est créer un endroit. Et c'est une volonté, on ne peut pas poser question sur ça. Il veut, à Kadosh Baruch Hu, créer un endroit, créer un environnement dans lequel on ne ressent pas Dieu, comme ici, dans le monde. Le monde, ce n'est pas un endroit dans lequel on ressent à Kadosh Baruch Hu. On peut essayer de le ressentir, hein, mais il n'y a pas de preuves. Ça veut dire qu'une personne peut vivre toute sa vie sans penser à Dieu, et il n'y a rien qui va se passer. On est d'accord? Une personne peut être incroyant toute sa vie et vivre normalement. Il n'y a rien qui va l'obliger à dire qu'il y a un Dieu sur Terre. Il n'y a rien. La réalité autour de lui ne l'oblige pas à dire qu'il y a un Dieu autour. S'il réfléchit pas, s'il cherche pas, il n'y a rien qui l'oblige. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu, il te dit comme ça. Il te dit, je vais créer un environnement dans lequel je suis pas visible. Et dans cet environnement, votre travail sera quoi? Votre travail sera de me chercher. Et de voir comment en vérité je suis là. Et ça, c'est un peu comme une chasse au trésor, quoi. C'est comme un cache-cache. C'est-à-dire qu'il se cache. Il se cache. Et le but de ce cache-cache, c'est qu'on le trouve. Maintenant, évidemment que s'il ne s'était pas caché, on n'aurait pas eu à le trouver. Mais le but, c'est pas qu'on le trouve sans qu'il soit caché. Le but, c'est qu'on montre à Kadosh. C'est quoi son plaisir? C'est qu'on lui montre que même s'il est difficile à trouver, on le cherche quand même et on le trouve partout. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est quoi la vraie joie? La vraie joie, c'est quand progressivement, partout où tu vas, tu fais un effort pour voir Dieu. Dans le livre, tu vois Dieu. Dans la table, tu vois Dieu. Dans ton magasin, tu vois Dieu. Ta maison, tu vois Dieu. Partout, tu vois Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Le but pour lequel Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, les mondes, mon monde, moi, tout le monde. Pourquoi il y a Kadosh Baruch Hu a créé tout ça? c'est pour un but, c'est pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu en bas. C'est quoi une demeure? Une demeure, la vérité c'est que ça c'est un thème que Michael attend depuis longtemps, c'est le chapitre 36. Et donc je vais vous faire un petit résumé du chapitre 36, juste le début. Le chapitre 36 dit la chose suivante. On parle là-bas de la notion de demeure. C'est un midrash qui dit ça, qui dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde parce qu'il a eu envie d'avoir une demeure ici. Ben, c'est quoi une demeure? Une demeure c'est une maison, un endroit où tu habites. On a un endroit dans lequel on est en déplacement. Bon, par exemple, tu vas aller en vacances, tu vas prendre une très belle chambre d'hôtel, 4, 5, etc., étoile, tu veux pas de problème, tu prends une très très belle chambre d'hôtel, mais c'est pas chez toi. Tu payes très cher la chambre d'hôtel, mais c'est pas chez toi. Tu rentres chez toi à la maison, c'est pas 5 étoiles chez toi. Mais curieusement, tu te sens mieux chez toi à la maison qu'à l'hôtel. Comment c'est possible? C'est pas normal. Pourtant, à l'hôtel, c'est beaucoup mieux. T'as pris une suite, t'as pris ce que tu veux, t'es servi, on te fait le lit sans rechigner, sans rien, rien du tout. On t'est servi à manger ce que tu veux, le meilleur plat au monde. Qu'est-ce que vous, le problème? Mais c'est pas chez moi. Il y a quelque chose dans le chez-soi. Ce qu'on appelle la dira. La dira, c'est la maison. C'est un endroit dans lequel il est chez lui. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a créé plein de choses. Il a créé le Olam Haba, il a créé le paradis, il a créé le monde futur, il a créé toutes les planètes, il a créé beaucoup de choses. Mais il y a un endroit qui est sa maison. Alors, nous, naturellement, on va dire, bon, Dieu ici, il est en déplacement, mais sa maison, c'est en haut. Eh ben non, c'est le contraire. C'est en haut qu'il est en déplacement. Sa maison, c'est ici en bas. C'est Dieu qui a décidé, il a dit, ma maison va être en bas. Pourquoi en bas? Parce que en bas, ce que j'aime chez les gens en bas, c'est que, naturellement, je suis pas visible, et pourtant, ils font un effort pour me trouver. Je vais donner un exemple pour expliquer ça. C'est comme un exemple qui expliquait en Chassidout. Deux exemples, je vais donner. Premier exemple, on va aller de plus en plus clair. Premier exemple, c'est un exemple que donne le Midrash. Le Midrash, c'est le Zohar, pardon, qui donne cet exemple. Il dit comme ça. Il dit, il y a un roi qui est pas bien. Imaginez un roi qui est pas bien. Et il a envie de changer un peu ses esprits. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à ce qu'on lui amène un perroquet. Un perroquet. On va lui amener un perroquet. Le perroquet vient devant lui. Et le roi, il va commencer à jouer avec le perroquet. Il va dire bonjour. Qu'est-ce qu'il va répondre le perroquet?
Bonjour.
Bonjour. D'accord. Il va commencer à jouer. Bon. Au revoir. Hein, salut. Etc. Et le perroquet, il répète tout. Et là, tu vois le roi, il est Temchenev comme ça. Et là, tu vois le roi, il kiffe grave. Ah, il est là, il est bien. Alors, c'est expliqué. Le Zohar, il pose la question. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a le roi avec le perroquet? Qu'est-ce qu'il a avec le perroquet? Il veut quelqu'un qui parle. Mais le roi, il a des ministres qui parlent, qui doivent avoir un français parfait, qui parlent mieux qu'un perroquet qui répète. Alors si il a envie d'entendre une belle parole, qu'il demande à un de ses ministres qui lui parle et il va lui dire des paroles extraordinaires, qui lui lise un texte extraordinaire, qui peut le faire renverser, d'accord? Non, ça amuse pas, ça casse les pieds au roi, ça amuse pas le roi. Pourquoi ça amuse pas le roi? Qu'est-ce qui va amuser le roi? C'est un perroquet. Qu'est-ce qui amuse dans le perroquet? C'est ce qui amuse dans le perroquet.
C'est la différence.
C'est la différence. C'est que c'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Qu'un homme y parle, on connaît. C'est pas nouveau. Mais qu'un perroquet y parle, c'est nouveau. C'est pour ça que ça m'amuse, parce que je dis c'est pas possible. Un perroquet, mais il parle en français, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Finalement, qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui amuse une personne? C'est la nouveauté. J'ai un autre exemple encore.
J'ai pas compris pourquoi on a donné cet exemple.
Tout de suite, tu vas comprendre. Un autre exemple. D'accord? Autre exemple. Vous prenez par exemple un enfant. D'accord? Prenez par exemple un enfant. L'enfant, bon, quand il est petit, il marche pas encore. D'accord? Au début, il marche même pas à quatre pattes. Il commence à marcher à quatre pattes, toi, les parents, bah, il applaudit, d'accord? Bon. Après, l'enfant, il fait son premier pas. Et là, tu vois, les parents, ils sont là comme des fous, ils ont envie de pleurer. Ils sont là, ils vont l'applaudir. D'accord? Pourtant, ce même enfant, un an plus tard, quand il va courir partout, il va me dire, arrête de courir! Alors, qu'est-ce qui a changé?
La nouveauté.
C'est que maintenant, c'était avant, nouveau.
Enfin, voilà.
Mais après, c'est plus nouveau. Tant que c'est nouveau, ça fait plaisir. Mais quand c'est pas nouveau, bon, là, ça devient normal. Ben, c'est la même chose. Pour Akadosh Baruch Hu, le fait qu'on le serve dans les mondes supérieurs, le fait qu'on le serve au Gan Eden, le fait qu'un tzaddik le serve, c'est pas nouveau pour lui, ça. C'est comme un adulte qui marche. C'est normal qu'il marche. Il a été éduqué pour ça, il sait marcher. Pourquoi tu veux qu'il marche pas? Il faut être fou pour pas marcher. Imaginez quelqu'un, il sait marcher, il peut marcher, et il marche pas. Il va dire, t'as vu, je marche, waouh. C'est normal, tu marches. C'est pas impressionnant, ça. Qu'est-ce qui impressionne? Quand c'est nouveau, quand c'est inattendu. C'est la même chose. Pour un Kadosh Baruch Hu, le fait qu'on le serve ici-bas, c'est inattendu. C'est pas la réaction naturelle. C'est pas la réaction naturelle d'un être humain de servir Dieu ici-bas. Je le vois pas. Depuis quand on sait rien qu'on ne voit pas?
Alors il recherche le kavod.
Non, pas du tout. Il recherche la nouveauté.
On parle de Dieu, monsieur le président.
Ben oui, puisqu'il lui dit qu'il veut être servi ici-bas.
Mais vous êtes marocain. C'est pour ça que.
C'est probablement ça.
Et puis on peut même extrapoler et se poser la question, après tout, pourquoi a-t-il besoin qu'on le serve ici?
Ça, c'est une bonne question. Il a quoi de ça? Ça, c'est une bonne question.
Ok, seule question.
Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est le chapitre 36.
C'est son kiff.
Non, vous avez raison, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a de ça? Mais en tout cas, on comprend que c'est plus le faire plaisir.
Mais c'est pas. On tourne autour du pot, là.
Non, pas du tout.
Bah si, on tourne autour du pot. Non, c'est pas ça la vraie raison.
Des gens, c'est la vraie raison. Ça, c'est la vraie raison.
Ah, d'accord.
Ça veut dire après, il faut comprendre pourquoi il fait ça.
Ça veut dire qu'il y a un manque.
Ah, voilà. Après, voilà. Ça soulève plusieurs questions. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'il a de ça? Et en plus, est-ce que ça veut dire qu'il manque quelque chose?
Bah oui, s'il a besoin de quelque chose, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Très bien, c'est une autre question, ça.
C'est. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin?
Même dit, ça veut dire qu'il s'y attendait pas.
Manque de rien.
C'est.
Non. C'est pas qu'il s'attendait pas. C'est que c'est pas naturel. Servir Dieu sur terre, c'est pas naturel.
En fait, ça pose deux questions. Cette question-là.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a avant nous?
Qu'est-ce qu'il y a?
Avant nous.
Avant Bereshit. Il y a toujours, et c'est lui qui est toujours là. Vehuayav. Il était là et il est maintenant.
Mais qu'est-ce qu'il y a avant Bereshit? Bereshit, c'est nous.
Non, c'est Dieu. C'est ce qu'on a expliqué semaine dernière. Non, mais ça change rien, ça. Il y a toujours eu que Dieu. Et même maintenant, il n'y a que Dieu.
Non. D'accord, je comprends. Mais la raison de notre présence ici, c'est sûrement une raison.
Oui, c'est de servir.
Ce qu'on a expliqué. C'est que finalement, qu'est-ce que, ça veut dire que où Akadosh Baruch Hu a sa demeure, Akadosh Baruch Hu a sa demeure dans un endroit dans lequel il n'est pas forcément populaire, il n'est pas le choix naturel, et pourtant, on va le choisir. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Alors quel rapport avec le cours qu'on est en train d'expliquer? Ben le rapport est très simple. On n'arrête pas d'expliquer depuis le début du cours que c'est quoi la vraie simcha. La vraie simcha, c'est quand je vois Dieu partout. Et plus j'avance dans ma vie, et plus je vois Dieu partout. C'est-à-dire qu'au début, je vois Dieu à la synagogue. Et encore, pas partout à la synagogue, pas dans toutes les synagogues, et pas à n'importe quel moment, etc. Et après, avec le temps, j'apprends à voir Dieu partout. Partout. Partout dans ma vie. Chaque détail. Et plus j'avance, et plus je comprends que même dans les petites nuances, c'est Dieu. Chaque chose, c'est Dieu. Ça, c'est le but pour lequel on a été créé. Le but pour lequel on a été créé, à quand je dis, mais tu t'imagines, t'as quelqu'un qui a été créé dans un monde dans lequel il ne me voit pas, dans lequel il m'a jamais vu. D'accord? Il a vu dans les livres que j'existe. Il va faire un effort pour me trouver partout. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est fou. C'est inattendu, ça. C'est quelque chose qui n'est pas le choix naturel. Et ben, ça, c'est le but pour lequel le monde a été créé. Ça veut dire que le but ultime pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour ça, pour faire une demeure ici-bas à Akadosh Baruch Hu.
Mais il a
on le sait d'ailleurs, que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, d'accord, il y a eu la faute, première faute, faute initiale d'Adam. Ensuite, cette faute, bon, avec ça, à cause de cette faute-là, Akadosh Baruch Hu a dû s'éloigner du monde. Parce qu'il n'était plus bienvenu dans le monde, justement. Quand Dieu a créé le monde, il était dans le monde. D'accord? Ça veut dire qu'il était, on le sentait dans le monde. Lorsque Adam a fait la faute.
Tu veux dire qu'on le voyait?
On le ressentait. On ressentait. Comme tu voyais Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu voyais pas la table, tu voyais l'énergie qu'il y a dans la table, tu voyais Akadosh Baruch Hu. Après, Adam Harishon est venu à faire la faute, la Shrina a quitté le monde. La présence divine. C'est toujours Dieu, mais on le voyait plus. Il est parti de la terre au premier ciel, les sept cieux. D'accord? C'est une image. Ensuite, il y a eu toutes les générations. Il y a eu la génération de Noah, la génération du déluge, etc. Et chacune de ces générations, il y a eu Caïn et Abel, etc. Fait en sorte que Dieu s'éloigne. Chacun arrive à Abraham. Abraham, c'est lui qui enclenche la descente. Abraham, c'est-à-dire quand Abraham arrive, on est dans un monde dans lequel il y a pratiquement personne qui est monothéiste. D'accord? Ils sont tous soit athées, soit comment dit le contraire de monothéiste, polythéiste, d'accord? Qu'est-ce que fait Abraham? Abraham commence à diffuser le monothéisme, donc il commence à refaire descendre Dieu sur terre. Progressivement, descend. Donc Abraham, tous ceux qui ont suivi, jusqu'à Moïse. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Moïse, c'est lui qui va orchestrer la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Le don de la Torah, qui est le moment dans lequel il est écrit, par quoi commencent les 10 commandements? Va Yered Hashem al Har Sinai. Dieu est descendu sur le mont Sinai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu maintenant est revenu au stade zéro. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la création du monde, que Dieu était sur terre et qu'entre temps il a quitté, 2448 ans plus tard, Dieu redescend sur terre. Donc ça y est, on est bon, ça y est, on a réparé la faute, on est bon. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait le veau d'or. Donc Dieu requitte encore une fois. Alors qu'est-ce que Moïse leur dit? Il dit, si vous voulez refaire le dessin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire le Mishkan. Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Metocham. Ve'tocham. C'est la paracha Terouma. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous, dans vous. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois on joue va et vient. C'est-à-dire que Dieu il descend, il remonte, il descend, il remonte, il descend. Et comment il descend? C'est nous qui faisons descendre. Quand on lui montre qu'on veut pas de lui, eh ben il s'en va. Quand on lui dit on t'attend, eh ben il revient.
Et aujourd'hui, d'accord, on en est aujourd'hui.
Eh ben aujourd'hui, le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, Dieu, il est au niveau 1. Et il attend le dernier travail, le travail de la 7e génération, qui est la nôtre, pour redescendre du niveau 1 au niveau 0, c'est-à-dire Mashiach. C'est pour ça que tous les rabbinim parlent du fait que Mashiach est imminent. Parce qu'ils savent ça. Ils savent que, à l'époque du Baal Shem Tov, on savait que la Shekhinah, à cette époque-là, était au niveau numéro 7. C'est pour ça que les gens ne parlaient pas beaucoup de Mashiach. Mais aujourd'hui, plus les générations avancent, on sait aujourd'hui pertinemment qu'on est proche, dans le sens que la Shrina est très proche. Moi, je le sens pas parce que je suis pas un tzaddik. Mais les tzaddikim le sentent, ils savent ça. Ils te disent, écoutez, vous le sentez pas parce que vous êtes au rez-de-chaussée. Moi, je suis au premier étage, je vous dis que c'est imminent, ça arrive, c'est en train de descendre. Quand je suis au rez-de-chaussée, je ressens pas plus l'ascenseur s'il est au premier étage ou au septième étage. Pour moi, c'est la même chose, il est pas devant moi.
On en parle quand même depuis deux, trois minutes.
Non, mais là c'est imminent. C'est-à-dire que avant l'ascenseur il était au septième étage. Là il est au premier là.
Mais
le problème, ce que tu comprends pas David, c'est qu'à chaque fois l'ascenseur il monte, il descend, on joue au yo-yo.
C'est ça le truc.
Tu comprends? Ça veut dire que chaud, froid, il monte, il descend, il monte, il descend. Bah oui. On fait la faute du vaudan, pac, il remonte. On fait le Mishkan, pac, il redescend. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.
Mais qui me dit que dans une génération on ne sera plus là? Le prochain rabbin qui sera à votre place, il va nous dire il est au troisième niveau.
Monsieur Benita, Monsieur Benita, quand vous serez pas là, je serai plus là. En haut,
non. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, bon, nos petits enfants.
Qui se rejeter, Monsieur Benita.
Qui se rejeter. Alors,
on a finalement.
Fais la sécurité.
Mais ça, c'est subjectif. Hein.
Vous avez raison. Mais Monsieur Benita a raison. Ce que dit en clair, ce que dit Monsieur Benita, on n'a aucune preuve. On n'a pas de preuve.
C'est pas
seulement qu'on n'a aucune preuve. C'est-à-dire ce que je te prouve maintenant, je peux trouver demain le contraire. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. On vit dans un monde dans lequel il y a rien qui prouve l'existence de Dieu. Il y a rien du tout. Donc être croyant, c'est déjà inattendu. Être croyant dans le bon Dieu, c'est encore plus inattendu. Et le trouver et le voir partout, jusqu'aux petits détails de ma vie de tous les jours, c'est encore plus inattendu. Alors vous imaginez que c'est sans fin ça, parce que au début je le vois dans les détails, après les détails du détail, les détails du détail, jusqu'à la fin, le bonhomme juste il bouge son doigt, il dit oh je vois Dieu. Il voit Dieu partout. Mais ça c'est quand Dieu il voit ça, il dit mais c'est extraordinaire.
Il finit enfermé.
Il dit mais c'est extraordinaire. Je suis pas visible et il me voit partout.
Mais enfin il nous a assigné une tâche qu'on peut pas accomplir toute notre vie durant, ça suffit pas pour accomplir cette tâche.
Si, bien sûr, ça suffit.
Non. Vous connaissez beaucoup de hachamim là, qui ont nos âges là, qui arrivent à toucher Dieu.
Non, mais c'est une façon de parler, Monsieur Benita. Vous voyez bien que dans la vie vous avancez. Ça veut dire que quand on est jeune, on voit Dieu nulle part, et plus on avance, et plus la vie nous fait comprendre qu'il y a un Dieu sur terre et que ce Dieu, d'abord on le voit à la synagogue, après on commence à le voir dans les affaires, on commence à sentir qu'il y a des incohérences, c'est pas normal. Tu dis comment c'est possible? Le hasard. D'accord. C'est-à-dire, tu réfléchis, mais ça, tu pourras toujours mettre ça sur le dos du hasard, et personne sur le compte du hasard, et personne te prouvera le contraire. Mais avec le temps, tu apprends à voir Dieu, et c'est un travail ça. Et ce qui explique ici, c'est que plus on apprend à voir Dieu partout, et plus on a une joie profonde, parce qu'on sent que tout est sous contrôle. C'est une joie extraordinaire. Ça, c'est le but pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire, celui qui a compris ça, il a tout compris. Vous imaginez? Ça veut dire que celui qui est là maintenant. D'accord. Qui croit que faire le judaïsme, c'est juste faire les mitzvot, il a rien compris.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas ça. Le but n'est pas ça.
On peut prendre du McDo.
Le but.
Ce soir et essayer ce machin. J'ai compris que tu peux pas le dire.
Le but, c'est pas ça. D'accord. Non, il faut comprendre un point important. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de voir Dieu partout. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des mitzvot. C'est pour ça que Dieu nous donne la Torah. Quel est le but de la Torah? Quel est le but des mitzvot? Le but de la Torah, c'est de nous aider à comprendre comment Dieu est partout. En mettant Dieu partout. C'est-à-dire qu'il y a même quand tu dis la Gemara, chaque détail c'est Dieu. Chaque détail c'est qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Quand tu fais les mitzvot, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah c'est les choses de la vie de tous les jours. Je vais construire une souka, je vais faire un loulav, je vais mettre des tefilines, je vais faire une mezouza, je vais manger. C'est les choses de la vie de tous les jours. Et dans ça je mets Dieu, j'en fais une mitzvah. Ça veut dire, le but des mitzvot c'est la même chose. C'est d'essayer de montrer comment Dieu est partout.
on passe notre temps matérialisé.
C'est nous qui la mettons dans ça.
Voilà, donc bien sûr. Mais c'est ça le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est de mettre, de nous aider à mettre Dieu partout. Mais le but, c'est pas seulement que je fasse la mitzvah machinalement et je dis bon, ben je suis conditionné. Alors bon, je l'ai fait, mais si je n'étais pas conditionné, je l'aurais pas fait. Le but, c'est qu'après à la fin de la mitzvah, je la vivrai. Au point que c'est un choix naturel. Et ça vient progressivement. Je donne un exemple. Un exemple que je donne souvent. Par exemple, quelqu'un qui fait Shabbat. Au début, il ne fait pas Shabbat. Il commence à faire Shabbat. Au début, il est conditionné. Il n'a pas envie de le faire, son Shabbat. Lui, ce qu'il a envie, il a envie une chose, c'est d'aller au boulot ou d'aller faire son golf ou je ne sais quoi. D'accord ? Tu lui dis, il va faire Shabbat, il n'a pas envie de le faire. Mais après, avec le temps. Donc là, effectivement, il est conditionné. Ce n'est pas son choix naturel. Mais après, avec le temps, il peut avoir un kiff du Shabbat au point qu'il est dedans. Là, quand Dieu y voit ça, il dit c'est beau. Il dit regarde, quelqu'un il a pris un choix qui n'était pas son choix naturel, et non seulement qu'il l'a fait pour moi, mais en plus maintenant c'est devenu son choix naturel. C'est extraordinaire. Son naturel est devenu la mitzvah. Son naturel est devenu Dieu. Ça veut dire qu'il voit Dieu partout. C'est un travail. C'est un travail d'une vie ça. Mais ça, plus on avance et plus on a une joie. Et la vérité, j'ai pas envie d'employer le mot joie. Je pense que le terme approprié pour ça, sérénité. La vie d'un juif religieux lui amène progressivement une sérénité que rien d'autre peut lui amener. Une sérénité très profonde.
Ça pareil,
il y a beaucoup.
Ça conduit à la joie.
Ça
perd, si tu peux pas être joyeux,
c'est pas ça. Non, c'est très profond. Très profond. D'accord? T'as une sérénité profonde. Et ça, c'est quand tu vois Dieu partout. Ce qu'il te dit ici.
Mais alors, il nous dit pas ce que lui, il ressent lorsque nous, on se comporte comme lui.
Il a un plaisir fou.
Alors c'est exactement un grand savant qui il est immensément intelligent et tout ce que vous voulez, qui se réjouit de voir un petit enfant ou un adolescent ou un adulte, il va se réjouir de le voir faire des additions.
Bien sûr. Enfin, regardez, monsieur Binet, tout à l'heure, au début du cours.
Il se réjouit de voir un disant, mais c'est
oui,
quoi?
C'est nouveau, c'est inattendu. Regardez tout à l'heure.
Il se met pas à son niveau.
Au début du cours, tout à l'heure, monsieur Binet, j'ai dit qui se rappelle le cours la semaine dernière. Et vous m'avez ému, parce que vous m'avez répété le cours. Pourquoi vous m'avez ému? Parce que je ne m'attendais pas. Vous m'avez répété en 30 secondes le cours de la semaine dernière. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que vous vous rappelez tellement une semaine plus tard et que vous êtes capable de me répéter, de me faire un condensé.
C'est un monsieur formidable.
Non, mais c'est vrai. Pourquoi ça m'a ému? Parce que je ne m'attendais pas. D'accord. Si c'était une personne, par exemple, qui est dans les livres et qui connaît, qui sait lire tout seul en hébreu, qui comprend tout, etc., tous ces livres-là. S'il me répète le cours, ça m'étonne pas parce que je sais qu'il est dedans. Mais quelqu'un que je sais que c'est pas forcément le cas, qu'il a écouté un cours et qu'il est capable de le répéter, qu'il l'a assimilé et qu'il le répète, c'est inattendu.
Il l'a vécu aussi, il était
possible. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Benita? Oui. Ça veut dire que quand je dis inattendu, c'est autre chose. Pour Dieu, c'est inattendu. Ah, maintenant, ce que je vous montrais par là. Puisqu'on a compris que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'inattendu. Vous comprenez que l'inattendu d'un tzadik n'est pas le même inattendu que notre inattendu.
Tu parlais parce que de surprendre.
Ah ben oui, de surprendre. Parce que un tzadik, pour surprendre Dieu, il doit se lever de bonheur. Parce que Dieu, il sait qu'il est capable de faire tout ça. Non, mais il doit en faire beaucoup. Ça veut dire qu'un tzadik, il peut faire des très très grands mitzvot. Dieu, tu m'impressionnes pas. Tu m'as pas surpris là. Alors que d'un côté, t'as un petit rachat qui vient, qui fait une petite mitzvah, il dit waouh!
Mais comment tu peux le surprendre puisqu'il a un coup d'avance sur toi?
Non, mais.
À l'infini.
Oui, mais surprendre dans le sens que tu te surprends. Pour surprendre Dieu, je dois me surprendre.
Mais on parle de nous, en fait.
C'est de nous qu'on parle. Ça veut dire que je me surprends. Je me dis, mais attends, tu t'imagines?
Waouh!
Si je n'ai la différence, comment j'étais il y a 5 ans, comment je suis aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Ça nous arrive des fois dans la vie comme ça, que t'as des choses, tu repasses par les situations par lesquelles t'es déjà passé. 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, et tu vois que tu les maîtrises beaucoup mieux. Tu vois que tu les regardes différemment, et ça fait plaisir. Tu te dis, ah, j'ai fait du chemin. Tu te dis, il y a 10 ans, quand je vois une situation comme ça me mettait en rage. Là, je vois que je gère. Ah, mais c'est vrai. C'est là que ça fait plaisir. Tu te dis, j'ai fait du chemin. J'ai appris à voir Dieu dans ma personne. J'ai appris à voir Dieu partout. Mais c'est ça la raison pour laquelle le monde a été créé. Et ça, c'est une grande simra. Quand on arrive à comprendre ça, c'est une grande simra. Ce qu'il dit ici. Donc ça, c'était le pasouk que les enfants disent. Et vous savez que les 12 psukim, ce sont 12 versets de la Torah qui ont été sélectionnés par le rabbi de toute la Torah pour que les enfants répètent. C'est pas rien. C'est 12 versets sélectionnés, 12 versets et morceaux d'un peu partout, quoi. Et un de ces 12 morceaux, c'est ça. Je pense, d'accord? D'ailleurs, c'est pas seulement je pense, le Rav Azimov Zichrono Livracha, il nous avait dit, il nous a fait une fois un cours sur l'éducation, et il nous avait dit que il nous avait dit que qu'il a entendu au nom des anciens chassidim, d'accord, qui ont dit que un des secrets que le rabbi nous a enseigné pour réussir dans l'éducation de ses enfants, il faut analyser le sens des 12 psukim, le sens des 12 versets. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse des cours sur ça. Le sens des 12 versets que le rabbi a sélectionné. C'est-à-dire que si le rabbi a sélectionné 12 versets, dans ces 12 versets, il y a un message. Donc ça veut dire finalement, il y a 12 messages qu'on doit faire passer à nos enfants. 12 messages. Par exemple, le premier verset, c'est Torah tziva lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Traduction. La Torah que Moïse nous a ordonnée, et l'héritage de la communauté de Jacob. En d'autres termes, apprendre aux enfants comment d'un côté la Torah vient de Moïse, mais d'un autre côté c'est un héritage, et d'un autre côté elle vient de Dieu. Ça fait partie de l'héritage qu'on donne à un enfant, le message qu'on donne à un enfant. Bon, ça c'est un message qui est relativement, qui a l'air simple, d'accord, qui a l'air compliqué, mais qui a l'air simple. Le 11e verset que le rabbi a sélectionné, c'est celui-là. Le verset dans lequel tu apprends un enfant, tu parles à un enfant, tu lui dis ce verset qu'on est en train de dire là. On te dit, sache que le but pour lequel la Kadosh Baruch Hu a créé t'as créé à toi, il m'a créé à moi, il a créé notre famille, il a créé notre ville, il a créé notre continent, il a créé tout ce que tu veux, notre planète, il a créé tout ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé tout ça? Le but, c'est pour que tu fasses une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Ça veut dire que comme le rabbi avait expliqué, tu vas expliquer à un enfant, tu vas dire, tu vois ta chambre, quand tu vas prendre ta chambre, et dans ta chambre, d'accord, au lieu de mettre des posters je ne sais quoi, tu vas mettre un poster de Torah. Au lieu de mettre des livres de je ne sais quoi, tu vas prendre un livre, tu vas répéter un mot de Torah dans ta chambre, et bien ça s'appelle que tu as fait de ta chambre un Beit HaMikdash à la Kadosh Baruch Hu. Un enfant, il peut comprendre ça. Il comprend mieux que nous, un enfant, ça. Lui faire comprendre que le but pour lequel il a été créé sur Terre, c'est pour faire une maison pour la Kadosh Baruch Hu, et que pour partout où il aille, ce soit pour la Kadosh Baruch Hu. Comme ça, le rabbi, il avait demandé, je me rappelle, que dans les chambres des enfants, on doit fixer une fixer ou on m'a posé bon, une tzedaka. Chaque enfant doit avoir sa tzedaka. Ou au moins une tzedaka dans sa chambre, s'ils sont plusieurs, d'accord. Et dans chaque chambre, il doit avoir aussi au minimum un chumash, un teilim et un tania, un chitat. Comme ça, le rabbi dit, de là, comme ça, la chambre de l'enfant devient un petit Beit HaMikdash. Comme ça, il a dit. Et il a demandé de le dire aux enfants, de le faire, donc de mettre, bien sûr, c'est les parents qui vont acheter le chitat, chumash, teilim, tania et la tzedaka, et les enfants, ils vont comprendre. Non, même pas pour étudier. Même pas pour étudier. C'est quand, vous savez, pour un enfant, c'est sacré sa chambre. Sa chambre, c'est sa maison. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis.
C'est son univers.
C'est-à-dire, sa chambre, c'est son univers. Et quand tu lui dis, j'ai pris la chambre, d'accord, mais c'est un conseil que je vous donne. Achetez un livre de Torah, offrez-le à votre enfant, et mettez-le dans sa chambre. Pas dans la bibliothèque, dans sa chambre.
Pour l'arranger d'abord.
D'accord? Ça change rien, ça. D'accord? Non, dans sa chambre. Parce que ça lui est très cher, sa chambre. C'est sa chambre, c'est son bureau, c'est son placard, c'est son mur. D'ailleurs, dès qu'on touche à quelque chose, surtout quand il grandit un petit peu, dès qu'on touche à quelque chose de la chambre d'un enfant, comment t'as pu toucher? J'ai juste rangé, j'ai rien fait. J'ai touché. Comment t'as pu toucher?
J'arrive à rentrer dans sa chambre.
D'accord. Encore faut-il. Hein. Ben c'est ça. Ben c'est ce qu'il faut éduquer un. Hein? J'ai entendu, il y a des mamans qui m'ont dit qu'il y a des chambres qui sont rangées de Pessah en Pessah. Et encore
ils ont
parce que si on part en séjour,
c'est du bouge pas à Pessah.
Heureusement qu'il y a Pessah. On sait pourquoi Dieu l'a créé Pessah.
Il y a des mamans qui profitent de Pessah pour voir ce qui se passe dans les placards. En tout cas. Hein? Ce que je veux montrer par ici, c'est que notre but sur Terre, c'est de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle quand j'étais jeune homme, d'accord, c'était le Shabbat avant mon mariage, j'avais un copain à moi qui m'avait fait le souhait suivant, quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, je te souhaite que ta maison soit toujours la maison de Dieu et que quand tu rentres dans ta maison, tu ressentes toujours que tu rentres dans la maison de Dieu. Et aussi, que ta maison soit un endroit dans lequel les tzadikim, et donc le rabbi, soient bienvenus. C'est pas simple du tout. Ça veut dire, est-ce qu'à n'importe quel moment où je suis chez moi à la maison, Dieu est le bienvenu? C'est une question, ça. Il y a des moments dans lesquels t'es là avec lui, etc. D'autres moments dans lesquels il a allumé le plasma. Et bon, là, Dieu dit, écoute, tu restes où tu es, je reste où je suis. On se retrouve dans une heure. Ah oui. Et là, tu te dis, Nathan, c'est la maison de Dieu ici. C'est la synagogue.
Mais le plasma n'est pas contre-indiqué.
Ça dépend ce qu'on y montre.
Ce qu'on y montre, c'est le programme que vous voulez, vous.
Voilà.
C'est vous qui choisissez le programme. C'est vous qui
choisissez le programme. Bien sûr. Il y en a un ici,
parce que. Oui, juste là.
Alors, ouais. Hein? C'est pas un écran de plasma, ça.
Je sais pas ce que c'est.
C'est un écran LED.
Mathieu n'a pas compris, elle a vu le rabbi dans la télé, on est la même à la maison, il n'y a pas le rabbi.
Mais ça, c'est une télé ouais, ou c'est quoi télé. Ça
c'est une télé. C'est un moniteur. Non, c'est juste pour un décoratif.
Non, non, mais.
C'est un encadrement. C'est un écran.
C'est pour les courses du PM.
Alors, on continue. Vous voulez mettre quoi? Vous voulez.
Mais non, s'il y a une caméra derrière.
Non, il n'y a pas de caméra. C'est pour voir des vidéos.
Et celle qui me rend, mais je dois rester intact même à travers des événements particulièrement tragiques. Je pense évidemment à la Shoah.
Samedi soir dernier, c'est ça. On l'a vu avec ça.
Ça peut influencer.
Normalement, non.
C'était plus grand.
Normalement, vous voyez Dieu partout. Je sais, ma femme, elle. Vous savez, je vous. Ça veut dire. Encore une fois, la simcha ne veut pas dire que je comprends ce que Dieu fait. C'est pas du tout, loin de là, parce qu'on comprend pas ce que Dieu, on comprend pas tout ce que Dieu fait, et on comprend pas grand chose ce que Dieu fait, si on comprend quelque chose. Mais je garde quand même une sérénité parce que je suis conscient que c'est Dieu qui l'a fait. Une fois, vous savez, Elie Wiesel, il raconte dans son livre, dans plusieurs livres, il parle de la Shoah. Dans un de ses livres, il raconte que après la Shoah, il était très perturbé. Il passait par la Shoah lui. Vous savez qu'il vient d'une dynastie, enfin, il vient d'une cour hassidique, etc. Enfin, il a toute une histoire extraordinaire. Et il était très perturbé parce que il comprenait pas la grande question que tout se posait, où était Dieu
à ce moment-là.
C'est pas possible, c'est-à-dire, quel père va laisser qu'on fasse ça à ses enfants, même si tu laisses punir, etc. Où était Dieu? Et c'est une question qui t'a rôdé dans la tête de beaucoup de rescapés de la Shoah, et pas que dans les rescapés de la Shoah. Où était Dieu? Et il raconte dans ses mémoires qu'il est rentré chez le rabbi de Lubavitch. Il est parti chez plusieurs rabbis, chacun lui donne une réponse intéressante. Des réponses intéressantes, etc. Mais bon, je vais vous dire la réponse que le rabbi lui a donnée, qui est une réponse qu'il a marquée aussi. Il raconte comme ça, il dit, je suis rentré dans le bureau du rabbi. Bon, d'abord, il me dit, on a parlé un petit peu, comment j'étais, ce que j'ai fait, etc. Après, il me dit, voilà, j'ai posé une question au rabbi. J'ai dit, rabbi, j'aimerais savoir où était Dieu pendant la Shoah. Alors, il s'attendait à ce que le rabbi parle en développement, etc. Bon, comme, voilà, on s'attend à ça. Et le rabbi lui répond, il lui dit, mais où Dieu n'était pas pendant la Shoah? C'est une réponse qu'il a bluffé. Il a pris du temps à la comprendre. Il a dit, j'ai réfléchi. Et je suis arrivé à la conclusion que Rabbi a raison. C'est tellement gros qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Peut-être j'ai pas... Bon, comme ça qu'il fait comprendre en tout cas. Où Dieu n'était pas. C'est une grande force. Ça veut dire vivre un événement très difficile. D'accord. Et comprendre, réaliser que ça vient de Dieu. Pas de l'allemand. Ça vient de Dieu.
C'est difficile. Hein.
C'est très difficile.
Mais c'est vrai, mais c'est ce que vous venez de dire.
Je ne sais pas comment si c'est un existant. Ça existe pour un homme de comprendre.
Ceux qui sont passés par la Shoah,
même les spectateurs. Ceux qui sont... Nous, on est des spectateurs. Même pour les spectateurs, c'est un peu difficile.
Il y a des grandes tradities qui l'ont fait, comme le Rav Bloy, par exemple.
Mais il n'y a pas que... Bien sûr.
Entre autres.
C'est trop gros pour être vrai. Tu comprends? C'est pas possible. Maintenant, encore une fois, il faut mettre... Ça veut dire... C'est ça la difficulté d'un croyant. D'un côté, il réalise que Dieu est partout, oui. Même dans le mal absolu, et dans l'autre côté, il ne comprend pas. Et il doit gérer ce paradoxe. Il y a des religions dans lesquelles on éteint le cerveau. C'est plus simple à la limite. Tu vois, il y a des religions, bon, on éteint le cerveau des gens. On dit, voilà, tu vas te faire sauter, comme une bombe, d'accord, et voilà, et tu vas y aller au paradis.
Ce qui est incompréhensible, c'est que d'un côté, il nous dit Dieu que nous sommes ses enfants, et d'un autre côté, il nous fait subir des choses qui sont vraiment qui dépassent l'imagination.
C'est incompréhensible.
C'est ça.
Mais Monsieur Benita, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que c'est incompréhensible que ça veut dire qu'il ne c'est pas lui qui l'a fait.
Alors il a fait Babylone.
Ah, le premier. Non, mais c'est temple. Ça la difficulté, parce que le problème comme ça.
Il a fait le Romain deuxième temple. Il a fait Isabelle la catholique troisième temple. Il a fait la Shoah. Il a fait les Juifs d'Afrique du Nord. On était obligés de partir.
C'est procès.
Et maintenant en France, on ne dit pas chez toi, tu dégages. Il a fait tout ça.
Restez en France.
On referme le débat. Monsieur Benita.
Oui, monsieur.
Monsieur Benita, regardez. Encore une fois, la question n'est pas comment comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre.
Il n'y a rien à comprendre.
On ne peut pas comprendre. Quand c'était après la Shoah, vous savez, puisque vous avez parlé de la Shoah, monsieur Benita, on va parler de la Shoah. Après la Shoah, il y avait des fois, beaucoup de gens, vous savez, les gens étaient complètement perdus, d'accord ? les religieux et ceux qui se disaient pas religieux aussi, tout le monde était complètement perdu. Et bien sûr qu'il y a de quoi. Ils étaient perdus parce que, bon, d'abord, il fallait tout reconstruire, ils comprenaient pas, etc. Imagine une personne du jour au lendemain, il n'a plus rien, il n'a plus de famille. Tu présentes, on peut même pas s'imaginer. Plus de famille, plus d'amis. Eh ben, tu recommences tout. T'as l'impression qu'on t'a catapulté sur une autre planète, avec des nouvelles personnes. Dans un autre pays, avec une autre langue, enfin, catastrophe. Et donc les gens venaient voir les tzadikim pour essayer de parler, pour essayer. La vérité, c'est que dans une situation comme ça, on n'attend pas des réponses, mais on a besoin de parler, on est évacué.
Le réconfort.
Et
c'est une thérapie.
Et c'est une thérapie, bien sûr. Et le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il a reçu comme ça des centaines et des milliers de personnes. Des gens qui venaient lui parler, qui se mettaient à pleurer, ils pleuraient avec lui. Et lui aussi pleurait avec eux. Il pleurait, qu'est-ce qu'il fasse? Pleurer, parce que c'est très douloureux d'entendre un juif raconter comme ça. Et lui aussi, le rabbi lui-même et beaucoup de ses équipes, ils ont perdu de la famille, etc. Vraiment, enfin, bon, c'est une catastrophe. Et une fois, Rabbi Yosef Yitzhak, il a entendu comment il y avait des rabbins, hein. Je ne sais pas si c'est des rabbins qui sont passés par la Shoah ou pas, à mon avis, ils ne sont pas passés par la Shoah. Il commençait à expliquer. Il disait oui, c'est arrivé parce qu'il y avait des réincarnations, et c'est à cause des fautes, et c'est à cause de l'assimilation, et c'est pour ça que Dieu a fait, etc.
La plupart, ils disaient l'assimilation.
L'assimilation, etc. Et là, le rabbi Yosef Yitzhak, il est rentré dans une furie, une expression, et il dit la Shoah n'a aucune explication possible. Et si on veut expliquer la Shoah, on va laisser celui qui a fait la Shoah venir nous l'expliquer. En d'autres termes, nous ne sommes pas les comptables du bon Dieu. Ça, tu comprends, comme il n'a pas dit, bon, on va faire, ah ben il a fait ça pour ça, il a fait ça pour ça. Pourquoi il t'a parlé, il est venu te voir dans le rêve, il t'a dit qu'il fait ça pour ça. Il n'y a rien qui peut justifier l'atrocité de la Shoah. On a des punitions, c'est écrit les punitions dans la Torah. Mais quelque chose de tellement dur, de tellement amer, il n'y avait rien. Il n'y a rien dans la Torah. Mais d'un autre côté, ça ne doit pas empêcher la émouna d'un juif. C'est un exemple que le rabbi disait souvent. Il disait, si on prend historiquement, parce que vous avez parlé historiquement, la souffrance qu'on a eue en Égypte était plus dure que la Shoah.
Oui.
C'est plus proche de nous.
C'est beaucoup plus dur. Ben, à 100%.
Non, mais disons que nous, on peut pas.
Vous savez, l'hécatombe, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand on est sorti d'Égypte, on était combien?
600 000.
On était, non, 600 000 hommes.
600 000.
600 000 hommes de 20 à 60. On était 3 millions de personnes. Maintenant, le texte nous dit dans la Parasha Béchalach, quand on est sorti, on n'était que 20%. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui sont restés juifs,
oui,
qui sont morts en Égypte que pendant la plaie de Rocher. Non, je vous demande de compter. D'accord? Donc, ça 3 millions sur 80, ça, sur 100, ça veut dire combien on était à la base? 15 millions. 12 millions. Ils sont morts juste pendant la plaie de Rocher. Sans parler de tous les enfants qui ont été pris comme des briques. Qui ont été mis dans les murs. Sans parler des enfants qui ont été noyés. Sans parler des gens qui sont morts par la servitude. Attendez, j'ai pas fini. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, les problèmes, on en a toujours eu des problèmes. Et c'est pas d'aujourd'hui les problèmes. La Shoah, c'est très, hein, c'est quelque chose de très très difficile, mais c'est le problème est toujours. Mais c'est proche de nous. C'est proche de nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, il parle du négationnisme. Parce qu'en vérité, quelque part, avec le temps, on devient négationniste, malheureusement. C'est comme, voilà, on va dire aujourd'hui, tu sais, quand on était en Égypte, eh ben, il y avait une grande souffrance. On est un peu négationniste de ça. On va dire, ouais, bon, tu sais, on n'était pas là-bas, on sait pas ce qui s'est passé, et bon, parce que c'est loin, c'est très loin. Plus on prend de la distance, et plus on a du mal à se ressentir. Bon, Baruch HaShem, pour la Shoah, on le rappelle, etc. C'est important. Mais en tout cas, ce qui est clair, ce que je vous montrais par ici, c'est que c'est pas parce que l'événement est incompréhensible, et l'événement est incompréhensible, c'est pas pour autant qu'on va dire que Dieu a abandonné le jeu et qu'il a laissé le jeu aux Allemands.
En tout cas, en Égypte, ils ont moins.
C'est d'ailleurs ce que Job dit. Job, à un moment, il parle, il dit comme ça. Il dit, est-ce que Dieu aurait-il abandonné la terre?
Il aurait-il abandonné ses enfants,
c'est une rhétorique, hein. Bien sûr, Job est croyant. Mais enfin, c'est une façon de parler. Ça veut dire que, c'est ce qu'on est en train de dire. Un juif croyant, c'est un juif qui apprend à voir Dieu partout, même lorsqu'il est invisible et même lorsqu'il est incompréhensible.
Mais en tout cas, l'exemple de l'Égypte que vous avez cité, comme quoi ils ont plus souffert en Égypte par rapport à la Shoah, je crois que le texte, il dit plutôt le contraire. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que...
J'ai pas dit plus, en tout cas autant, c'est sûr que c'est autant.
Moi je dis moins, pourquoi? S'ils avaient souffert autant que la Shoah, ils ont tous quitté les camps. Mais en Égypte, le cinquième seulement a quitté. 4/5 sont restés. Si 4/5 sont restés, c'est qu'ils n'étaient pas si mal que ça.
Les camps,
c'est autre chose.
Oui.
Ils sont morts.
Ils sont morts.
Mais attendez.
Mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas voulu.
Non, monsieur Benita, ils sont morts.
Parce qu'ils n'ont pas voulu sortir.
ils sont morts, d'accord ? Ils sont morts, quand on dit ces 4-5e, ils sont morts seulement pendant la plaie de l'obscurité. Et c'est seulement parce qu'ils ne voulaient pas sortir.
Voilà.
Ils n'ont même pas été tués par les Égyptiens, ceux-là.
Non, non, c'est Dieu qui...
Comptez maintenant tous ceux qui... Ah oui, c'est compliqué, ça.
Non, il faut se poser aussi la question. Le premier commandement, il me dit, tu ne tueras point. Et puis lui, il a tué combien des milliers comme ça ?
Qui c'est lui ?
Ben Dieu !
Mais depuis tout le temps, on a parlé des âmes, c'est une année où il y a deux semaines.
Vous tapez fort, là ? Ah là, il refait le monde, là, ce soir. À votre taille, M. Benita, il refait le monde, ce soir.
On doit regarder
là. Là, M. Benita.
L'histoire, hein,
Isabelle.
Ça fait deux fois qu'il nous la sort, Isabelle.
Ah oui, il y a quelque chose, hein.
Deux fois en 5 ans.
C'était une juive. Non, parce qu'elle nous a marqué, nous les.
Bien sûr qu'elle nous a marqué.
Eh bien sûr.
Est-ce que les juifs peuvent faire ça ?
Quoi ?
C'était une juive.
Non, mais tout.
Bon, en tout cas, pour revenir à notre sujet. La simcha, la vraie simcha, c'est quand on réalise que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est le but pour lequel on a été créé. Le but pour lequel on a été créé, c'est pour faire un effort de voir Dieu partout. Et ça, c'est ça ce que je veux qu'on retienne du cours de ce soir. Il n'y a pas un détail de ma vie qui échappe à Dieu, qui n'est pas Dieu. Même l'instant dans lequel je suis dans la Vera, c'est Dieu.
Ça veut dire quoi?
Tout est Dieu. C'est Dieu, tout est Dieu. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que même l'instant dans lequel je fais la Vera, il y a une énergie pour faire cette Vera.
Ouais.
Cette énergie, c'est Dieu. C'est moi, c'est Dieu.
Moi, j'ai bien aimé l'exemple de la semaine dernière.
Et c'est pour ça que c'est grave. Parce que tu fais descendre à Kadosh Baruch Hu.
Avec le soleil, c'était compréhensible. C'était vivant.
Ah ben, il y en a qui étaient l'arc avec le soleil. Bon, ben, chacun voit midi à sa porte.
Alors. Le reflet, c'était plus compliqué.
Hein?
Mais être dans le...
Ah ben, tu sais d'où vient l'expression « chacun voit midi à sa porte » D'où vient cette expression?
Ah, c'est parce qu'avant, dans les maisons françaises, il y avait des cadrans solaires pendant les portes.
Et juste au-dessus de la
porte. Voilà. Le soleil il tournait...
Et en fait, il n'était pas midi au même moment à chaque porte, tu vois. Ça dépendait de l'inclinaison. Donc, je t'en parlais, c'est pour ça le rapport avec le soleil. Ce qui est vrai, oui, bien sûr.
Il a fallu uniformiser, mais sinon, il n'est pas midi partout au même moment.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Il est tôt.
Magnifique.
Non, j'ai pas envie de trop vous compliquer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine. Sur Dira Betartonim.
C'est compliqué, je comprends.
Eh oui, c'est pour ça qu'on vient.
La semaine prochaine, on va aller encore plus loin que ça. On va expliquer la joie que va avoir une simple personne lorsqu'il sait qu'il peut faire plaisir à un roi. Ça, c'est encore un autre.
C'est compliqué.
Ben, tout ça, c'est lié à.
C'est pas compliqué. Excusez-moi, c'est pas compliqué du tout. C'est le travail d'une vie. Et vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Ce soir, maintenant, à cette heure-ci, vous aurez pu rester chez vous. Pourquoi vous êtes venu au cours de Tania?
Chercher Dieu.
Parce que vous êtes venu chercher Dieu dans votre vie. Vous essayez de comprendre. Donc ça veut dire que, pourtant, est-ce que la nature vous y force? Pas du tout. Donc, exactement.
On a envie d'écouter un concert à la radio.
Voilà. Ah, mais il y avait des tas de choses à faire.
Il n'y a plus vraiment d'efforts. Ça veut dire un peu une nature chez nous de venir quand même.
Oui, mais alors,
c'est réglé.
Alors évidemment, tu as raison. Tu as raison. Donc c'est pour... Non, il a raison. Ça dépend pour qui. Mais tu as raison. C'est pour ça que, comme avec un moment, ça devient une habitude, il faut chercher à se surprendre. Ça veut dire que quand tu vois une année dans laquelle tu ne t'es pas surpris, c'est pas bon. Il faut te surprendre.
Il faut rajouter, mais...
Parce qu'après, on rentre dans la routine. Et la routine, c'est bien la routine. C'est déjà bien de garder la boutique bien comme il faut. C'est bien.
Ah, tu veux que j'ajoute ?
D'accord. Il faut se surprendre.
Même dans le matériel ?
Il faut se surprendre dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui fait kiffer Akadosh Baruch Hu.
Il faut qu'on agrandisse.
Ça veut dire que...
La mesure de l'effort.
Ça veut dire que ce raisonnement consiste à dire il faut se surprendre. Aujourd'hui, je vais me surprendre. Mais je suis obligé de me surprendre encore demain pour que ça soit différent par rapport à aujourd'hui.
Exactement.
Et encore demain par rapport
plus
à... C'est sans fin.
Sans fin.
C'est sans fin.
Sans fin.
Plus qu'hier, moins que demain.
Ouais. On dit que Moshe veut durer 5 mètres. Vous rendez compte? Ouais. Il a
deux étages à lui tout seul.
C'est une image. Hein. C'est une image. Voilà. Donc Rabotaille, cherchez Dieu partout, vous le trouverez. D'accord. Et chaque détail dans lequel on trouve Akadosh Baruch Hu, c'est le but. Et donc, je terminerai avec ça. Quand Mashiach arrivera, on verra Dieu partout. Comme il est écrit, d'accord. Il est écrit dans la prophétie d'Isaïe. Veraou kol basar, ki shem Hashem diber. lorsque ma chair viendra, toute chair, même notre chair, nos yeux verront que c'est la bouche de Dieu qui parle. Parce que Dieu, il a créé le monde avec quoi? Avec sa parole. D'accord? Maintenant, est-ce que moi, je vois la parole de Dieu dans la table?
Non.
Non. Mais en vérité, c'est cette parole qui fait vivre cette table. Quand ma chair viendra, avec mes yeux, je verrai la parole de Dieu. Et je verrai comment la parole de Dieu génère maintenant cette table.
Tu veux que je te dise ce qui nous arrangerait, c'est qu'ils viennent assez rapidement parce que je comprends que dalle là. Je suis un peu.
Pourquoi tu comprends pas? Tu regardes.
Non, mais ça y est, d'accord.
La table qui est devant toi.
Là, c'est bah voilà. Qualité de gars. Tu veux un dessin?
Vas-y, vas-y. Regarde la table qui est devant toi. Qui a créé cette table?
Il a dit les Chaïm, Miguel.
Non, pas seulement. Qui crée maintenant cette table?
Il dit pas les Chaïm,
il a dit. Ça veut dire que si tu dis qui crée maintenant cette table, ça veut dire que l'instant d'avant, elle n'était pas là. Pas.
Chaque seconde, elle est recréée. Chaque milliseconde, elle est recréée. Mais il y a l'énergie, c'est la physique,
c'est la théorie,
ça.
La théorie quantique versus.
Exactement.
La matière.
Elle est recréée à chaque instant. D'accord? Donc c'est une énergie. D'accord. Ok? Donc c'est Dieu qui recrée cette matière à chaque instant.
D'accord, mais moi, dans mes bottes, avec aujourd'hui, je la vois comme si elle était en
voilà.
Et je la vois pas comme si elle
était. Eh ben, lorsque ma chère va venir, Dieu, il va te mettre, c'est comme dans les jeux, là, il va mettre une petite option. Hop, tu vas faire suite, chute, et tu vas voir l'énergie divine.
Mais dans un des.
Et d'ailleurs aussi, il est écrit, Bayom Ahou, Yé Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, en parlant de Mashiach, lorsque Mashiach arrivera, Dieu et son nom seront une seule chose. Le nom, c'est ce qu'on voit. Dieu, c'est le Dieu lui-même. Quand Mashiach viendra, il n'y aura plus cette différence entre ce qu'on voit et ce qu'il est. Ce sera la même chose. Je vois la table, je vois Dieu.
Mais alors, Moshe Rabbeinu, dans une des parachas, il a parlé avec Dieu. Il a dit, panim les panim. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a décrit ce qu'il a vu? Il avait un homme, il avait une femme, il avait une silhouette.
Non, mais Dieu n'est pas un homme.
Non, mais alors, qu'a-t-il vu?
Il a vu Dieu.
C'est dimanche dit. Je peux pas le dire.
Il a pas décrit.
À mon avis, il n'y a pas de mots pour dire.
Il me dit, panim les panim. Alors, panim les panim, donc voilà, comme je vous vois.
Monsieur Benita, si j'étais Moïse, je vous aurais répondu.
Non, mais d'accord, mais c'est écrit dans la Torah.
Je sais pas.
Ce sont des mots pour la compréhension.
Qu'est-ce qu'il a changé en nous?
Parce qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu des miracles de fou, et ça leur a pas empêché de faire la.
Ce qui va changer en nous, c'est que progressivement, en exil, on a appris à travailler notre corps. Parce que l'exil, c'est comme un mur. C'est des murs qui ne nous laissent pas faire les mitzvot. Et avec le temps, chaque fois, on affronte un mur, d'accord, et on fait tomber ce mur. Et c'est des nouveaux murs à chaque fois dans l'exil. Le monde qu'on affronte aujourd'hui, c'est le mur de l'assimilation. Chaque époque de l'exil a eu son mur. D'accord? Le mur aujourd'hui, c'est l'assimilation qui veut nous faire tomber. Et on affronte ce mur. Et c'est les parties de notre corps. C'est-à-dire qui nous empêche de voir Dieu. Et dans l'exil, chaque génération a eu les murs qui l'a fait tomber. Donc une fois que tous les murs seront tombés, le dernier mur qui nous reste, c'est le mur de l'assimilation, d'aller chercher un juif un par un, les juifs un par un. Une fois que ce mur sera tombé, notre corps en vérité est prêt déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà habitué notre vécu, notre psyché, on s'est déjà habitué à voir Dieu partout. Ça veut dire qu'un juif à l'époque du Beth Amikdash, c'était facile pour lui de voir Dieu parce que Dieu était là, il le voyait. Mais dès qu'on les a mis en exil, il s'était perdu. Nous, on n'est plus perdus aujourd'hui. Pourquoi on n'est plus perdus? Parce qu'on a appris à retrouver Dieu, même quand il est caché. Donc maintenant, quand Dieu va se dévoiler, là, on se dira, maintenant, on est armé. C'est pas comme à l'époque, Dieu, il s'est montré, mais dès qu'il s'est caché une seconde, hop, le veau d'or. Ah, ça y est, un jour, on l'a pas vu, c'est fini, veau d'or. Doucement, c'est quoi ça?
Surtout après la Shoah. Hein.
Oui. Parce que
là, quand même, il faut la foi, quand même.
Ouais. Il fallait surmonter. Il y a un mur à surmonter, je sais pas.
Les deuxièmes tables, elles étaient mieux que les premières?
Les
deuxièmes tables.
Il y a toujours eu Israël.
Les deuxièmes tables que Moshe il a ramené. Est-ce qu'elles étaient mieux que les premières? Elles étaient meilleures que les premières.
C'est notre question.
À quel point vu,
non, mais d'accord. Mais est-ce qu'elles avaient quelque chose de dedans
en plus? Oui, 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 c'est vrai.
Un plus dans les deuxièmes par rapport aux premières.
Pourquoi vous posez cette question?
Pardon?
Pourquoi vous posez cette question?
Parce que si elles étaient plus ou moins. Il y avait plus.
Pourquoi vous posez cette question d'abord?
Répondez.
Non. Quel est le. Où vous voulez
votre question? Pourquoi vous la posez?
Il parle
que
de la torture.
Ils ont 10 minutes en plus. Attention, on va appeler Isabelle.
Alors, là.
Marchez.
Alors, la question.
On a compris la question, mais pas pourquoi vous la posez.
Si on considère que les deuxièmes tables étaient meilleures que les premières, il y avait quelque chose de plus. On peut dire, heureusement que les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or.
Ah, on peut justifier.
Parce que s'ils n'avaient pas le veau d'or, on n'aurait pas profité
alors,
des oui, deuxièmes tables.
Alors, je vais vous répondre, Dans les premières tables de la loi, dans les premières tables, il n'y avait que les cinq livres de Moïse.
Alors, donc, ils ont bien fait le veau d'or.
Dans les secondes tables, il y a toute la Torah orale, la Gemara, la Mishnah. Alors, ils ont bien fait alors on y va, allez, on fait le...
Allez, lâchez le veau d'or, allez.
Mais attendez, mais on s'emmerde.
Rabin explique que c'est sûr que la Teshuvah amène plus qu'avant.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Prête-lui ton chapeau.
Ah, je crois que tu es...
Bon, alors, on va arrêter là la casse.
C'est un tressidé.